Bienvenue à tous ceux qui n'étaient peut-être pas présents ce matin. Nous continuons notre aventure décennale en accueillant pour l'année 2012 William Marx, qui est professeur à l'Université de Nanterre et qui va revenir sur son livre intitulé « Tombeau d'Oedipe pour une tragédie sans tragique » et qui a proposé ce titre pour cette intervention « Penser la littérature de l'extérieur ».
Merci Marielle, et merci aussi à Antoine Compagnon et à son équipe pour cette invitation et pour l'organisation de ce très bel événement. Je suis extrêmement honoré de me retrouver ici dans cette enceinte et devant vous tous pour parler de littérature et pour parler du tombeau d'Oedipe. Alors, pour parler du tombeau d'Oedipe, j'aurais pu me contenter peut-être des quatre phrases très synthétiques écrites sur ce livre par Madame Pénélope Fillon dans la Revue des Deux Mondes pour un prix qui a fait débat, mais j'ai pensé qu'il était peut-être un peu nécessaire ici de développer un peu davantage. Je commencerai donc par une proposition simple, trop simple peut-être. S'il y a presque une infinité de façons d'envisager les œuvres littéraires, il n'y a peut-être, en revanche, que deux façons, et deux seulement, d'aborder la littérature elle-même. Je veux dire la littérature en tant que littérature, à savoir considérée comme un ensemble d'objets langagiers dotés de propriétés communes et régis par des règles constitutives particulières. Soit, première façon, on aborde la littérature de l'intérieur, en acceptant par principe les règles de ce jeu, en essayant de jouer à ce jeu au mieux, quitte à transgresser finalement ces règles, à tricher un peu avec elles ou à les subvertir. Soit, deuxième solution, on s'extrait résolument de ce jeu, on prend de la distance et on observe la littérature de l'extérieur, en remettant en cause d'emblée le principe même du jeu, en refusant d'y jouer, en le comparant avec d'autres jeux similaires ou tout différents pour en montrer éventuellement les limites, la précarité, la contingence ou l'arbitraire. Et la chose se complique du fait que le terrain de jeu lui-même est à géométrie variable. Ce terrain de jeu ne cesse de se reconfigurer. Penser la littérature de l'extérieur, c'est sortir du terrain et considérer que depuis des siècles, le statut, la fonction, l'idée même de littérature n'ont cessé d'évoluer et de se transformer. Et c'est pourquoi je m'efforce dans mes travaux de construire par petits bouts ou selon des perspectives particulières ce que j'appellerais volontiers une histoire différentielle du concept de littérature, de manière à provoquer chez le lecteur contemporain un sentiment d'étrangeté par rapport à lui-même, à remettre en cause ses habitudes trop assurées et, plus généralement, à déstabiliser ses systèmes de valeurs et sa vision du monde, ou je dirais aussi notre système de valeurs, nos systèmes de valeurs et notre vision du monde. Or, l'une des meilleures façons de mettre en lumière la spécificité actuelle de la littérature passe par la confrontation avec des formes de littérature soit totalement étrangères, soit obsolètes, ce qui revient à peu près au même quant à l'effet recherché de défamiliarisation. Plus les points de comparaison sont lointains, plus informative et plus efficace sera la comparaison elle-même. Archimède cherchait un point d'appui pour soulever le monde. Eh bien, à moi, il me fallait un point de comparaison le plus ancien possible pour montrer les transformations radicales de ce qu'aujourd'hui nous nommons littérature. Et le tombeau d'Oedipe est sorti tout entier de la constatation suivante. S'il s'agit de montrer la variabilité de l'idée de littérature, quel plus grand écart pourrions-nous trouver a priori qu'entre les deux extrémités chronologiques de l'histoire de la littérature occidentale, c'est-à-dire entre aujourd'hui et, d'une part, et entre le plus ancien de cette histoire. Et à part l'épopée et la poésie lyrique, qu'y a-t-il de plus ancien et de mieux attesté que la tragédie ? La tragédie apparaît comme l'outil rêvé pour prendre une distance maximale avec notre conception actuelle de la littérature. Le problème, c'est que paradoxalement, au terme d'une si longue histoire, la tragédie elle-même nous est parvenue surchargée de commentaires, de lectures, d'interprétations et de réinterprétations qui nous la rendent aussi peu étrangère que possible. Au moins, depuis la redécouverte des tragiques grecs par les humanistes de la Renaissance, la tragédie appartient définitivement à notre histoire littéraire et culturelle sur laquelle elle a exercé une influence capitale. Il a donc fallu me lancer dans une double entreprise de défamiliarisation. Je ne pouvais parvenir à défamiliariser notre littérature sans passer par une défamiliarisation de la tragédie. J'ai donc dû d'abord chercher à briser la gangue herméneutique qui entoure la tragédie grecque et empêche de la considérer en elle-même dans la singularité qui la constitue. Car ce qui nous sépare de la tragédie, c'est en premier lieu la littérature elle-même, c'est-à-dire notre habitude de lire tous les textes comme des textes littéraires, au sens qui prévaut pour ce terme depuis deux siècles. Une lecture littéraire, elle fait sens de tout. Elle décontextualise le plus possible. Elle voit dans chaque texte un objet autonome et confère au lecteur une toute-puissance herméneutique. Mais nous n'avons en général plus conscience de lire d'une façon si particulière, tant cette attitude est devenue pour nous une seconde nature. Et c'est ce filtre littéraire qu'il fallait rendre à nouveau visible, car la reconnaissance de notre littérature comme altérité conditionne notre prise de conscience de la propre altérité de la tragédie et vice-versa. Et voilà comment un projet sur les mutations de notre idée actuelle de la littérature a donné finalement un livre sur la tragédie grecque. Dans l'idée que dégager la tragédie de tous les préjugés dont nous l'embarrassons devrait permettre, à la fin du processus, de retrouver l'objet tragédie, non pas dans sa vérité première, car je crains fort que ce ne soit impossible, mais du moins dans la conscience de ceux qui nous en séparent, ce qui ne serait pas un mince résultat. Le livre propose donc ce qu'on pourrait appeler un processus de triangulation. Il y a la tragédie grecque d'un côté, la littérature de l'autre, au sens moderne du terme. Et puis, il y a l'observateur critique, philologue et historien, qui fait l'aller-retour de l'un à l'autre et qui, dans ce va-et-vient, tâche de construire un point de vue non pas neutre et surplombant, ce qui serait sans doute impossible, mais au moins un point de vue consciemment situé. Il s'agit d'observer la littérature depuis la tragédie grecque et d'observer la tragédie grecque depuis la littérature. Le livre se construit donc autour de quatre exercices de pensée, quatre façons de dépayser la tragédie grecque, de la défamiliariser, mais aussi quatre façons de nous dépayser nous-mêmes et de nous regarder de l'extérieur, en quatre chapitres intitulés « Le lieu, le corps, le Dieu, l'idée ». Alors je passerai assez vite sur trois d'entre eux et m'attarderai un peu davantage sur le quatrième. Le lieu part de la constatation que la plupart des tragédies grecques sont en fait indissociablement liées à un lieu géographique particulier. Elles évoquent ces tragédies, au sens fort de ce terme, un héros lié à des légendes locales et des rites singuliers, légendes et rites que les spectateurs connaissaient à l'époque, mais dont nous avons perdu nous-mêmes toute connaissance. Et pour aider à le faire sentir, j'utilise l'analogie avec le nœud. Cette forme théâtrale, le nœud, apparue à près de 10 000 km d'Athènes, au Japon, et 2000 ans après Sophocle, au XIVe siècle. Alors l'analogie, bien sûr, l'analogie n'est pas une preuve. Mais l'analogie peut au moins rendre perceptible la mesure du chemin qui reste à parcourir, la quantité de dépaysement nécessaire à qui veut appréhender la singularité d'un fait culturel évanoui, tel que la tragédie. Il faut passer par l'autre pour rendre sensible la distance qui nous sépare du même. Et ici, l'analogie aide à faire comprendre que considérer les tragédies grecques sans la connaissance des lieux auxquels elles sont associées, eh bien, reviendrait à, par exemple, admirer la Vénus de Milo sans se rendre compte qu'il lui manque de bras. Et à la différence d'une bonne part de la littérature moderne, le texte tragique, en effet, ne revendique pas son autonomie. Sa force dépend d'un réel perdu, une partie de sa force, au moins. Dans le chapitre sur le corps, je montre, contre l'interprétation purement intellectuelle et cognitive qui a été en vogue dans les dernières décennies, que, à examiner rigoureusement et philologiquement les textes aristotéliciens, la catharsis tragique définie par Aristote, que vous voyez ici, définie par Aristote dans la Poétique, fonctionne en fait de façon physiologique, en rétablissant un équilibre humoral dans le corps du lecteur et du spectateur. Et par le mécanisme de la catharsis, le texte tragique est censé pénétrer dans le composé du corps et de l'esprit et y produire des effets salutaires. Rien ne révèle davantage le gouffre qui sépare la conception littéraire prévalente à l'époque d'Aristote, où le corps tenait une place primordiale, et la nôtre, très intellectualiste. Le chapitre sur les dieux recense les diverses hypothèses sur l'origine religieuse de la tragédie, et en s'appuyant en particulier sur les réflexions de Clément d'Alexandrie au IIe siècle de notre ère, propose d'en chercher un modèle de compréhension moins dans le théâtre tel que nous le connaissons aujourd'hui que, par exemple, dans le rituel de la messe chrétienne. Et ici, vous voyez une scène de lecture de la Passion le vendredi saint dans une messe catholique. Manière encore de défamiliariser ces œuvres antiques et d'en trouver des analogues, faute d'y avoir accès directement, empêcher que nous le sommes par une littérature moderne qui s'est en grande partie construite contre le sacré. L'absolutisation de la littérature au cours du XIXe siècle a en effet coïncidé avec la désacralisation du monde. Comment pourrions-nous rien comprendre au rapport intime de la tragédie avec la divinité si notre propre littérature, loin de vouloir évoquer les dieux, s'est précisément construite contre eux et cherche même à les remplacer. L'absolu littéraire nous interdit, à bien des égards, tout accès au mystère de la tragédie. Rapport au lieu, action sur le corps, évocation du dieu, ces mystères de la tragédie antique définissent comme en creux ce que n'est pas notre art du langage, qui ne connaît ni lieu, ni corps, ni dieu. Et c'en est même la raison d'être. La littérature, au sens moderne du terme, naît en se séparant de tous les liens qui l'attachaient au monde sensible et suprasensible. C'est l'art délocalisé et intellectualisé par excellence. Alors, j'aurais pu m'arrêter là et laisser le lecteur sur ses interrogations qui me paraissent déjà suffisamment significatives. Mais je ne saurais reprendre ici ce livre sans en signaler ce qui me semble l'un de ses apports les plus originaux et les plus positifs, susceptible de modifier de manière assez radicale notre compréhension de la tragédie grecque. Et cet apport est d'autant plus étonnant qu'il se fonde sur des observations fort simples qui auraient dû être faites depuis longtemps. Mais nous savons bien depuis Edgar Poe et sa lettre volée que le plus visible n'est pas toujours le plus évident. Et l'argument part d'un questionnement sur la pertinence ou non du concept de tragique développé dans la philosophie allemande à partir de la fin du XVIIIe siècle pour décrire la tragédie grecque. L'idée du tragique est-elle adéquate à la réalité des tragédies ? Ce qui frappe en effet, c'est l'incapacité dans laquelle nous sommes de dire toute la diversité des tragédies qui furent représentées dans l'Antiquité grecque. Notre connaissance de la tragédie s'appuie pour l'essentiel sur 32 pièces d'Eschyle, Sophocle et Euripide, ce qui est vraiment très peu par rapport à l'œuvre de ses auteurs. Ainsi n'avons-nous que 7 tragédies de Sophocle sur les 123 qu'il aurait composées, et les proportions sont comparables pour les deux autres auteurs. Là, vous voyez en rouge les colonnes qui correspondent aux tragédies conservées, et en bleu, celles qui ont été l'ensemble des tragédies de ces trois auteurs. Mais c'est rien, donc, par rapport à l'œuvre de ces trois auteurs, mais c'est encore moins par rapport aux centaines, voire aux milliers de tragédies produites dans la période, puisqu'il n'y avait pas que Sophocle, Euripide et Échille. En fait, et ici, je vous montre l'ensemble des tragédies qui ont été représentées dans la période au Grand Dionysie, à Athènes, et en rouge, vous avez seulement les tragédies préservées, on peut aisément calculer que nous ne disposons que de 1 ou 2% du corpus total. Le naufrage est donc colossal. La question est donc double. Une de fond. Dans quelle mesure nos 32 tragédies sont-elles représentatives du corpus global ? Et puis, il y a une seconde question subsidiaire. Peut-on répondre à cette question en l'absence précisément de ce corpus perdu ? Alors, le problème a beau paraître insoluble, il n'a jamais gêné grand monde. L'habitude a toujours été de faire en gros comme si les tragédies conservées étaient les plus dignes de l'être, sans trop s'inquiéter de la fragilité de cet acte de foi. La seule chose que nous a apprise la philologie, c'est que la plupart de ces tragédies dérivent d'un choix scolaire datant de la fin du IIe siècle environ de notre ère, dont la tradition s'est maintenue dans les manuscrits byzantins, une sorte d'anthologie, disons, qui nous serait parvenue sans aucun mode d'emploi ni d'indication sur les critères de sa constitution. Alors, sachant le caractère arbitraire de toute anthologie par force, il y a là de quoi sérieusement se faire du souci quant à la représentativité de notre corpus. Mais comment démontrer ce caractère arbitraire sans corpus de référence ? Or, ce corpus de référence, il est là, devant nous, sauf que jusqu'ici, on ne s'était pas aperçu de son existence. Il s'agit de 8 tragédies d'Euripide transmises par une toute autre voie que le choix scolaire, des tragédies que les spécialistes appellent communément les tragédies alphabétiques, parce que leurs titres se suivent dans l'ordre alphabétique du grec. Et une telle bizarrerie s'explique par le fait que ces tragédies alphabétiques reproduisent quelques rouleaux d'une édition complète d'Euripide, dont les œuvres étaient, selon l'usage antique, classées alphabétiquement. Mon hypothèse est la suivante. Le fait que ces 8 tragédies d'Euripide soient issues non pas d'une sélection arbitraire comme les 10 autres, mais du pur hasard de l'ordre alphabétique, ce fait-là change tout. Il est possible, en effet, de les considérer comme un échantillon statistiquement représentatif des tragédies d'Euripide, puisque cet échantillon a été constitué de façon totalement aléatoire. Et la comparaison des tragédies du choix scolaire avec ce corpus de référence est tellement édifiante qu'elle me surprend encore moi-même aujourd'hui. Lorsque vous vous rendez compte, par exemple, que presque toutes les tragédies alphabétiques ont un dénouement heureux, c'est celle que vous voyez en bleu ici, tandis qu'il est malheureux dans presque toutes les autres, vous voyez la différence entre les deux premières colonnes, eh bien, vous comprenez d'un seul coup que le choix qui nous a transmis les autres tragédies n'a pas été neutre. De manière inespérée, donc, les tragédies alphabétiques d'Euripide nous fournissent un accès à la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire à toutes les tragédies qui n'ont pas été retenues par le choix du IIe siècle. D'où au moins 2 enseignements majeurs à tirer. Premier enseignement, on ne peut plus faire comme si notre corpus reflétait fidèlement la totalité des tragédies de la période. Si paradoxal que cela paraisse, il faut maintenant s'habituer à l'éventualité qu'une grande partie des tragédies ait pu finir bien. Et c'est une enquête que j'ai moi-même poursuivie, au-delà du livre, mais elle est un peu présente dans le livre, que j'ai poursuivie ensuite, en m'appuyant sur les fragments tragiques. Et quand on regarde les fragments tragiques, quand ces fragments nous permettent d'inférer le dénouement, eh bien on a une confirmation que une moitié environ des tragédies antiques avaient probablement un dénouement heureux, et donc qu'elles n'étaient pas tragiques au sens moderne du terme. Je publierai ces résultats dans un prochain livre, je pense. D'où l'idée, exprimée dans le sous-titre du livre, que, pour une tragédie sans tragique, que la tragédie antique doit être considérée sans le concept moderne du tragique. Le second enseignement, c'est que notre corpus est en fait biaisé idéologiquement et esthétiquement. Il est le produit d'une sélection non seulement partielle, mais partiale. Et peut-être, alors ce serait trop long de l'expliquer ici, et peut-être, c'est mon hypothèse, d'inspiration stoïcienne. Une inspiration stoïcienne qui, en privilégiant les dénouements malheureux, a notamment préparé toute la conceptualisation moderne autour de l'idée du tragique. Et cette idée moderne du tragique est en grande partie, en fait, un artefact de la transmission des textes. Et ce qui est vrai de la tragédie grecque, l'est aussi de toute la littérature antique. Notre corpus est pour la plus grande part le produit d'une transmission sélective dont nous ignorons la plupart du temps les critères. Et ce constat doit nous conduire à la plus grande prudence avant d'opérer toute interprétation et toute généralisation en cette matière. Car il nous faut prendre conscience que la majeure partie de ce que nous lisons de l'Antiquité a déjà été lu, choisi et préparé pour nous par d'autres que nous. Et c'est une conscience, je dirais, douloureuse, une conscience douloureuse qui nous prive de la croyance illusoire en un accès immédiat au texte. Sans cette prise de conscience, nous resterons de simples jouets de la tradition manuscrite et de ceux qui l'ont constituée au fil des millénaires. Nous resterons les victimes passives d'un filtre qui s'est interposé entre les œuvres et nous. Nulle réflexion sur la littérature antique ne peut faire l'économie d'une prise en compte de l'histoire des textes. Et de quoi il faut tirer une leçon de modestie épistémologique, qui a peut-être un peu à voir avec ce que disait Pierre Bayard ce matin. La connaissance très partielle que nous avons des textes anciens, dont nous avons perdu la plus grande part, doit nous inciter à forger ce que j'appellerais un état probabiliste et sceptique de la connaissance et de la discipline. Un état probabiliste et sceptique éloigné de toute affirmation péremptoire. Le probabilisme doit avoir sa part dans les études littéraires. Mais, et je voudrais terminer là-dessus, ce qui est valable pour la littérature antique l'est aussi, quoiqu'à un moindre degré, pour les corpus plus récents. L'historiographie de la littérature se fonde en effet, toujours, sur la définition d'un corpus dont la plus ou moins grande extension est elle-même déterminée par une évaluation implicite des œuvres prises en compte. Si bien que le corpus envisagé vient renforcer en retour les critères informulés qui avaient servi à le définir. Or, ces critères ne sont pas même nécessairement nos critères. Car les textes que nous lisons le plus volontiers et qui nous servent de référence nous ont été transmis par les générations qui nous ont précédés, qui elles-mêmes les héritèrent de leurs propres prédécesseurs, et ainsi de suite. Bref, je crois qu'une réflexion sur la littérature ne saurait faire l'économie d'une critique des canons qui nous servent à définir la littérature et d'une critique des mécanismes de constitution de ces canons qui délimitent un en dehors de la littérature. Il faut donc, ce seront mes derniers mots, pour ici en tout cas, il faut donc réhabiliter la puissance de l'extériorité et du négatif comme outil d'exploration du réel. Voulez-vous comprendre ce que dit un texte ? Eh bien, pensez également à ce que ce texte ne dit pas. Voulez-vous mieux lire les tragédies grecques que nous avons conservées ? Réfléchissez à toutes celles qui ont été perdues. Voulez-vous définir ce qu'est la littérature ? Eh bien, demandez-vous ce qu'on a laissé en dehors d'elle. Et demandez-vous également ce qu'en disent ses adversaires, car tel est le fil qui relie le tombeau d'Édipe au livre suivant, La haine de la littérature. Il faut savoir penser la littérature de l'extérieur pour pouvoir, au bout du compte, mieux y jouer à cette littérature, mieux en jouer, en toute connaissance de cause, dans la pleine conscience de ses potentialités et de ses limites, pour y jouer donc de l'intérieur. Je vous remercie.
Merci beaucoup, William Marx. Alors, je vais continuer à jouer le jeu, comme l'ont fait mes collègues ce matin, et ouvrir la discussion en commençant par poser moi-même une ou deux questions. Mais j'ai été moins scrupuleuse que Pierre Bayard ce matin ou Antoine Compagnon, qui avait pris la peine de réfléchir au préalable à des questions. Donc, je vous laisserai peut-être plus de temps. Je suis frappée par le retour au début et à la fin de l'exposé de cette idée de jouer le jeu. Il s'agissait au départ de refuser de jouer le jeu et le nom de Bourdieu n'a pas été prononcé, mais il aurait peut-être... sentirais peut-être la solidarité entre ce refus de l'illusion littéraire et ce que tu as à dire. Et puis tu es revenu à cette idée de jouer le jeu à la fin en suggérant que refuser initialement de jouer le jeu, c'était se permettre de le jouer mieux ensuite. Est-ce qu'on pourrait radicaliser un peu cette question ? Tout simplement en te demandant si refuser de jouer le jeu du canon, de la transmission, de l'augmentation herméneutique patiemment construite par les textes, permet de sortir sur un tout autre terrain et permet de jouer un tout autre jeu que le jeu littéraire. Est-ce qu'il y a une démarche de cet ordre-là ? Refuser de jouer le jeu, sortir du terrain, mais pour aller où ? Pour poser quelles questions, en fait ? Soit à la littérature, soit avec elle, à d'autres dimensions.
Merci. Je dirais volontiers, ça pourrait très bien être des questions comme du type que celles que tu poses de ton côté. C'est-à-dire, effectivement, l'idée de faire rejoindre la littérature et un vécu, une expérience existentielle et le réel, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important à faire aujourd'hui. Et je pense que le type d'interrogation que nous avons une bonne part, peut-être tous, ici autour de l'objet littéraire, est lié à ce sentiment que peut-être nous devons reconnecter en quelque sorte la littérature à quelque chose d'autre, à un autre qu'elle. Ce qui n'est pas détruire la littérature, mais ce qui est précisément faire cette reconnexion. Nous sommes tous, enfin, je ne peux pas parler pour les autres, ce serait pas possible, mais tu as cité Pierre Bourdieu, et effectivement, l'idée de défaire, de montrer comment les règles se sont constituées, ça me semble indispensable. Et donc, il me semble qu'il y a là une démarche épistémologique. Si tu veux, je considérerais cette démarche comme étant se faisant plusieurs étapes. Et je pense qu'il serait un petit peu peut-être dommageable de vouloir dire que approcher la littérature ne peut se faire que d'une seule manière. Dans une première version du texte, qui était beaucoup trop longue pour aujourd'hui, je disais qu'en fait, effectivement, quand même l'intérêt de notre rapport à la littérature, c'est d'abord d'entrer dans les textes, comme nous le faisons tous en tant que lecteurs naïfs, parce que nous sommes malgré tout les héritiers et les fils et les enfants de notre temps, de ce rapport à la littérature. Il ne s'agit absolument pas de modifier, du moins d'annuler cela, de faire en sorte que nous ne soyons pas ce que nous sommes. Mais en revanche, en tant que... développant une science, un savoir sur la littérature, effectivement, pour moi en tout cas, il me semble important de sortir pour voir comment ces règles sont constituées. Bourdieu l'a fait, et on peut effectivement développer, au-delà d'une interrogation proprement sociologique, quelque chose qui soit de l'ordre d'une interrogation plus historique sur la constitution des corpus. Alors, pour déboucher sur quoi ? Pour déboucher sur un autre... Alors, à la fois, je dirais, un meilleur rapport au texte, c'est-à-dire enrichir, parce que je pense que l'enrichissement que nous faisons, que je propose de faire, par exemple, sur la tragédie grecque, par le rapprochement avec le « nous », c'est quelque chose qui nous sert à penser la tragédie, mais qui nous sert à penser tant de choses également. C'est-à-dire que quand on a fait l'expérience du « nous », et c'est une expérience qui est à la fois une expérience textuelle, mais aussi, pour moi, une expérience existentielle, c'est-à-dire que quand j'ai vu, la première fois que j'ai vu du « nous » au Japon, et que j'ai vu l'acteur principal, le Shite, s'avancer solennellement sur le pont qui mène sur la Seine, j'ai eu un sentiment que quelque chose là se passait que je n'avais jamais vu se passer auparavant, et qui est une sorte d'évocation des dieux, quelque chose qui était un rituel qui était en cours. Et le fait est que ce nœud se jouait dans la cour d'un temple en plein air, etc., pas du tout dans un cadre théâtral. Et bien, cette expérience là qui est pour moi d'abord une expérience qui est à la fois esthétique,
de type épistémique, enfin qui aboutit sur donc une réflexion sur les objets de théâtre et de littérature de manière générale. Cette réflexion là elle informe totalement à la fois mon rapport à la tragédie mais aussi aux autres textes. Donc comment dire, je pense que l'extériorité n'annule pas l'intériorité que nous pouvons avoir avec les textes. Donc il s'agit de peut-être que nous sommes arrivés à un moment où il y a un point de jonction où nous pouvons penser ce genre de choses plus qu'il y a peut-être quelques décennies, parce que nous sommes peut-être un point tournant d'une évolution, on en parlait tout à l'heure pour l'histoire de la langue littéraire, un point tournant de l'évolution de la littérature, qui sait. Mais il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, certainement pas. Au contraire, il s'agit d'enrichir plutôt par tout cela notre propre expérience littéraire.
Peut-être une deuxième question. Il y a eu plusieurs propositions pour dissocier dans les dernières années, pour dissocier la tragédie du tragique. Et puis, de façon plus vaste, ces phénomènes de dérivation qui font qu'on dit qu'il ne faut pas confondre le surréalisme avec l'espèce d'assèchement de l'adjectif surréaliste dans son usage courant aujourd'hui, où il ne faut pas confondre le romantisme comme phénomène historique et esthétique considérable avec le devenir de l'adjectif romantique. Est-ce qu'on peut comparer tous ces phénomènes de dérivation et suggérer qu'il n'y a pas là seulement des erreurs à redresser, mais aussi, enfin tu l'as suggéré, des histoires, enfin des transformations de ce qu'on attend, des textes, de la façon dont des catégories esthétiques servent à qualifier ce qui survient, etc. C'est frappant, ces affaires de dérivation, à la fois comme erreur à redresser et en même temps ferment de production de jugement.
Non, c'est très juste ce que tu dis là. La vie des textes fait partie de la vie des idées. Et que les textes enrichissent l'expérience existentielle, tu l'as dit ce matin. Qu'ils enrichissent aussi notre expérience de pensée, cela me paraît aussi évident. Et il ne s'agit pas ici de refuser, comme je l'ai fait ici, comme j'ai pu peut-être donner l'impression de le faire, le concept de tragique ou l'idée même de tragique ou de dévaloriser cette idée de tragique. Je trouve l'idée de tragique telle qu'elle a été inventée à la fin du XVIIIe siècle par les philosophes de l'école d'Iéna, l'une des plus belles idées de pensée existentielle qui soit. Et je l'assumerai bien volontiers, un tragique de l'existence. Enfin, tout cela me semble indispensable. Et l'idée que les tragédies grecques aient pu donner, la lecture des tragédies grecques aient pu donner naissance à un tel concept, je trouve cela très beau et très utile et très fructueux. C'est magnifique. Mon interrogation, ici, était uniquement pour dire que ce concept de tragique n'était peut-être pas adéquat à la réalité, à la diversité même des tragédies. Mais ce que tu dis est extrêmement juste. La littérature nous oblige à penser, et elle crée de la pensée. Tu parlais du surréalisme, il y a la question de la poésie, du poétique. Il est paru, alors c'est un peu de publicité, dans Fabula LHT, un numéro spécial dédié précisément à cette question du poétique. J'ai donné un entretien sur l'histoire du concept de poétique. Et l'idée qu'il puisse y avoir qu'on ait pu, à partir de la notion des textes poétiques, de la poésie elle-même, créer ce concept d'état poétique qui déborde largement qui déborde largement les objets de langage et qu'on peut appliquer à des objets artistiques, mais même à des expériences, comme tu disais tout à l'heure, qui consistent à regarder un paysage ou le vol d'une hirondelle. Cela dit quelque chose de très fort de la capacité qu'a cette expérience de langage de pouvoir nous aider à penser les choses. Alors, l'idée, c'est simplement, pour ma part, ce que je dirais, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait. Quand on parle de poétique, est-ce qu'on parle de poétique au sens large, comme un état physiologique de conscience, ou bien on en parle de manière étroite. Et donc, si l'on sait ce qu'on fait, très bien, mais de toute façon, l'idée que l'on puisse, que les textes nous servent à forger des concepts, comme tu le fais magnifiquement dans tes propres textes, je trouve ça la plus belle preuve que cette littérature n'est absolument pas détachée de la réalité, de la vie, de la pensée, qu'elle est liée à la société aussi, et que tout cela nous aide à vivre et à penser. Oui. Je crois que c'est l'un des destins de la littérature, c'est effectivement de pouvoir créer des concepts. Après, on peut s'interroger sur la pertinence ou non des concepts, mais c'est une autre question. Mais ce destin-là, il faut l'accepter en tant que tel.
C'est audacieux de dire que la littérature est là pour créer des... ou le regard sur la littérature est là pour créer des concepts. C'est ce qu'on attend de la philosophie, normalement. Typiquement, la création conceptuelle ou l'affûtage conceptuel.
Bah, que la littérature serve à des philosophes pour créer des concepts, c'est ce qui s'est passé pour la tragédie. Et la littérature fait partie du réel. Et donc, on peut, j'imagine, forger des concepts à partir de la vie quotidienne, d'objets techniques. Les objets littéraires, que les contenus littéraires, que les formes littéraires aboutissent à faire penser et à créer des idées, des concepts, je crois que c'est leur destin en tant qu'objets du réel, mais plus qu'un objet du réel, ce sont quand même des objets de langage. L'idée qu'ils aient affaire avec le langage, c'est-à-dire avec ce qui nous constitue en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres pensants, fait que quelle que soit la définition, et tout à l'heure j'ai pu donner l'impression de ne pas avoir, d'avoir une vision très distanciée, c'est un peu mon objet, de la littérature, mais il me semble assez fondamental, en tout cas, que c'est quelque chose qui a à voir avec du langage. Et que cette présence, langage qui est au cœur de la littérature, quoi que ce soit que nous mettions sous ce nom, ce langage qui nous constitue en tant qu'être humain fait que la littérature, ces textes, ces objets, quels qu'ils soient, auront toujours une place considérable dans notre histoire individuelle et collective.